Alors ce matin, j'ai été conduite à travailler, pour ce matin, j'ai été amenée à travailler sur le thème de la jalousie. Alors j'étais pas du tout partie là-dedans, loin de là, et puis voilà, je m'y suis retrouvée en travaillant sur un texte d'Arthur Burke qui a fait pas mal de choses et qui a, dont on nous a parlé par rapport à l'Esprit Saint, mettre l'Esprit Saint devant notre esprit. J'ai cherché ce document-là sur Internet et puis je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé quelque chose sur l'esprit de jalousie et le Seigneur m'a dit « c'est important ». Alors voilà. L'esprit de jalousie, pour Arthur Burke, et je m'associe à ce qu'il pense, c'est une des multiples facettes trompeuses des forces démoniaques sur laquelle nous pouvons achoper facilement. Et il dit « pendant 10 ans, j'ai effectivement eu affaire à ce démon de la jalousie avant de le reconnaître réellement. » Donc il est là, il traîne, il voyage. Et il lui a été extrêmement utile, important, de dépasser la surface des manifestations pour descendre à la racine du problème de la jalousie. Une anecdote, un jour, un de ses amis le sollicite sa prière pour son ministère. Cet ami est à la tête d'un ministère en Amérique qui tente de faciliter le travail d'un ministère en Israël. Et donc, il y avait un groupe d'Israéliens qui devait venir en Amérique pour faire une tournée dans 22 villes différentes, pour partager leur vision et aussi pour récolter des fonds. Et avant que la délégation n'arrive dans la première ville, 3 personnes avaient eu des crises cardiaques. Une, ça va, on peut dire, il fait un peu chaud, il a été un peu stressé, ou je ne sais pas quoi, quelque chose dans son cœur n'allait pas bien, mais là, 3 d'un seul coup, ça faisait beaucoup. Et ce qui a été surprenant, c'est de réaliser que ces 3 personnes étaient en lien avec cette rencontre, soit avaient préparé cette rencontre, soit allaient faire partie du groupe qui allait être en tournée. Et ce qui a été d'autant plus surprenant, c'est que très très vite, leur cœur repartait et qu'il n'y avait aucune séquelle. Aucun séquelle. Donc voilà, c'était vraiment, tac, on met par terre quelqu'un, il se relève très vite, mais ça les a fait réfléchir. Et une réunion qui était prévue pour environ 400 personnes à Los Angeles, ils se sont retrouvés à 12 dans un salon, tellement l'organisation n'avait pas pu se faire, le leader était HS. Ça les a interrogés sur cette problématique d'une attaque démoniaque avec des conséquences graves au niveau physique. Ils ont réalisé que ce n'était pas seulement un problème biologique. Ils ont vu qu'il y avait là quelque chose d'important et ils ont appelé, Arthur Burke et son équipe ont appelé leurs intercesseurs un peu partout. Hein, et ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Hein, ils ont utilisé les prières de base avec l'autorité du Christ en coupant, etc. Mais ça ne marchait pas. Ils ont été, dit-il, extrêmement inefficaces. Ça montre. Et dans les 2 semaines suivantes, il y a eu à nouveau 2 autres crises cardiaques dans le groupe, dont une avec nécessité de chirurgie à cœur ouvert. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Et alors là, il dit, on a réalisé que ce n'était pas seulement d'ordre démoniaque, mais que le démoniaque avait un droit juridique important dans cette situation. Et ils vont essayer de comprendre pourquoi Satan avait un droit juridique, donc un droit de fait dans cette situation. Et ils se sont posé la question, quel droit l'ennemi a-t-il de pouvoir infliger ce genre de dommage? Et ils n'avaient jamais vu encore un esprit de crise cardiaque, moi non plus. Voilà, donc ils sont tournés vers le Seigneur à nouveau, ils n'ont pas eu de réponse très précise. Et puis Arthur Burke s'est dit, mais je vais demander au Seigneur à quelle personne je pourrais bien m'adresser pour avoir une réponse. Le Seigneur lui donne un nom, il s'adresse à cette personne, lui explique la situation, lui demande si elle a déjà été en contact avec un tel péchés pouvant avoir de telles répercussions. Elle prend du temps et elle lui demande, y a-t-il quelqu'un qui voulait être compris dans ce ministère et qui en a été exclu? Y a-t-il quelqu'un qui devait faire partie de ce groupe et qu'on a écarté? Alors, lui, il ne savait pas, mais il a demandé au responsable du groupe qui a dit, oui, oui. Quelques personnes en Israël voulaient être incluses dans la délégation israélienne, mais on ne les a pas écoutées. Et en Amérique, un autre ministère très important pensait que plusieurs parmi eux auraient dû accueillir les Israéliens et que ce n'était pas l'autre groupe qui aurait dû le faire. En tout, il y avait une douzaine d'individus qui étaient en prise avec cette situation d'avoir voulu avoir une place dans ce ministère et d'en avoir été écartés. Alors, ils ont compris qu'ils avaient affaire à un esprit de jalousie. Ceux qui avaient été écartés avaient été jaloux de ceux qui avaient participé à ce ministère. Donc, il dit toujours Arthur Burke, hein, là, pour l'instant, je ne dis pas grand-chose. Il n'avait jamais eu affaire à cet esprit de jalousie de manière précise. Et ils ont, au début, rejeté cet esprit de jalousie. Ils l'ont répudié. Ils ont coupé des liens. Ils ont isolé cet esprit de jalousie. Ce qui pour moi me paraît important, c'est que le Seigneur leur avait donné un nom. Quand on connaît le nom d'un ennemi, on peut le combattre. Quand on ne connaît pas le nom d'un ennemi, il continue son œuvre en souterrain. L'esprit de jalousie ayant été détecté, il ne pouvait plus avoir le même impact à partir du moment où ils priaient. Leur prière était efficace. Donc après, ils disent simplement, ben, ça a continué. Ils ont continué leur voyage, donc ils devaient faire 22 villes, ce n'était pas une ou deux, et plus de crise cardiaque. Donc ils se sont après posé des questions sur ce que ça pouvait faire. Une chose importante, quand Dieu veut nous parler, souvent, il utilise la répétition. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la même chose, pour qu'on ait compris. Et là, quand Dieu essaye de nous apprendre quelque chose de nouveau au sujet de l'ennemi du royaume, il permet souvent à cet ennemi d'exécuter la même arnaque encore et encore, habillé dans d'autres habits, afin de nous permettre de maîtriser les subtilités des stratagèmes de l'ennemi. Et au bout de 4 mois, Arthur Burke s'est dit, bah oui, c'est vrai, là, depuis 4 mois, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir à l'œuvre cet esprit de jalousie. Alors, cet esprit peut causer des problèmes physiques, et pas seulement des crises cardiaques. Je n'ai pas été chercher quel genre de problème il causait, ce n'était pas mon sujet. Mais par exemple, il donnait un exemple dans une résidence où il y avait des locataires. Les locataires précédents avaient été impliqués dans beaucoup de jalousie. On les entendait dans le quartier, ils se criaient dessus, ils se disputaient, ta-ta-ta. Et la jalousie était restée dans une des chambres. Et ce démon de la jalousie influençait le comportement des enfants dans cette salle alors que ceux-ci étaient totalement inconscients de la situation antérieure. Donc certains ont déjà entendu parler que quand on entre, quand on va habiter dans une nouvelle maison, c'est bien de faire le ménage. Donc on fait d'abord le ménage des araignées, on fait le ménage de la crasse quand il y en a, et puis on peut faire le ménage des puissances spirituelles mauvaises quand il y en a éventuellement. Donc là, ils ont fait le ménage et cet esprit de jalousie est parti, puis ils n'ont plus jamais eu de problème. En général, vous ne faites pas d'illusions. Si vous n'avez jamais été jaloux, c'est que vous êtes des êtres d'exception. Je dois dire, moi, Colette, que la jalousie, moi, connaître. Je connais. Et que la plupart d'entre nous, ça nous arrive d'être jaloux. Des petites choses, comme de très, très grandes choses. Dans des familles, il y a des familles où la jalousie, on la voit se manifester lors des successions. Ouais, il a eu tel meuble et moi j'ai eu que ce petit machin et puis ceci et puis mon père le préféré et puis c'est l'affaire qu'il a eue. Voilà, on a tout ça, on connaît, hein, on connaît de manière extérieure. On n'en connaît pas toujours la cause, parce que derrière cet esprit de jalousie qui a l'air un peu, bon, je suis jaloux de mon voisin, parce que de ma voisine, parce qu'elle a une plus jolie robe, ou oh, ses escarpins, ils sont jolis aujourd'hui. Non, il y a des choses bien plus graves, hein. À la communauté où j'étais, la jalousie, c'était costaud. Ça faisait des dégâts. Il y avait les êtres jaloux et ceux qu'on pouvait jalouser. Ceux qu'on pouvait jalouser n'étaient pas mieux que les jaloux. Mais n'empêche qu'il y avait des problématiques entre nous. Derrière cet esprit de jalousie, il y a Satan. Et Satan, si vous voulez tout savoir, c'est le plus jaloux de tous. Et ça, depuis toujours. Et depuis un certain moment, où il nous est dit en Ésaïe 14, comment est-ce possible, te voilà tombé du ciel, toi l'astre brillant du matin? Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages et je serai l'égal du Dieu très haut. Et puis patatras, Dieu lui dit, maintenant ça suffit, on va te couper un peu quelques pattes, et il se retrouve par terre, sur la terre. Mais il n'a pas perdu son pouvoir. Vous le savez, hein, et continue à ravager certaines choses. Donc cette prophétie d'Ésaïe que vous retrouvez dans Ésaïe 14, les versets 12 à 14, est bien sûr destinée à un royaume terrestre, à un roi identifiable, le roi de Babylone, mais beaucoup de théologiens l'ont attribuée à Satan. Satan était jaloux de la gloire, de l'honneur et de l'excellence que le Dieu Tout-Puissant possédait. Il devient très évident à partir d'un rapide regard dans les Écritures jusqu'à la fin des temps que Satan va devenir très amèrement jaloux de tous les cultes qui seront rendus au Dieu Très-Haut. À chaque fois qu'on adore Dieu, Satan pique une crise. Une, deux, trois, quatre, douze, le dimanche matin, quand il y a des cultes un peu partout dans le monde, ça doit lui faire des crises. On retourne au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, lui qui voulait le culte de l'humanité, il réalise que Adam et Ève ont tout reçu de Dieu et donc ils rendent un culte à Dieu. Quand il vient dans le jardin, il a l'intention de perturber la relation entre Dieu, Adam et Ève. En fait, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a mis à la disposition d'Adam et Ève, réjouissait leur cœur et réjouissait le cœur de Dieu parce qu'il lui rendait un culte agréable. Et ça faisait enrager Satan. Alors il est venu dans le jardin, puis il a dit, vous savez, hein, Dieu n'a pas vraiment voulu vous donner le meilleur. Il vous donne ce qui est bon. Mais il conserve pour lui la connaissance du bien et du mal. Ce que vous avez, c'est bon, mais ce n'est pas le meilleur. Si vous aviez ça, ce serait génial. Et à travers ce mensonge, à travers la tromperie, la manipulation, il va détourner le cœur d'Ève loin de Dieu. Au lieu que Dieu soit le fournisseur de toutes les bonnes choses promises, il était maintenant présenté par Satan comme quelqu'un qui les leur avait refusé. En fait, Satan dit à Adam et Ève que Dieu les a manipulés en ne leur donnant pas ce qu'il y a de meilleur, la meilleure part. Et vous avez bien conscience qu'aujourd'hui encore, on veut toujours la meilleure part. On en veut toujours plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'orgueil, plus de responsabilité, plus. Pas toujours dans l'église, hein, parce que c'est pas rémunéré. Voilà. Mais globalement, on veut toujours plus. Naturellement, on est enclin à ne pas nous satisfaire de ce qu'on nous donne. Et quand on nous dit, Et on nous a dit le week-end dernier à CP qu'il y a des gens qui vivent avec, je ne sais plus combien, 14 euros par mois. Et nous, avec nos 1000, 1200, 2000, etc., 3000, on se dit, oh, ben, on n'en a pas encore assez parce que celui d'au-dessus, il en a 3500. Mais les 14 euros du gars qui pète les plombs parce qu'il ne sait pas nourrir sa famille et qui rame comme tout, il ne fait pas que 35 heures, on n'arrive pas à l'assimiler dans la tête. Hein. Ça passe au-dessus. Et donc, Ève va aller, sur le conseil du diable, s'approprier ce qu'il y a le mieux, le must. Et elle va croquer le fruit défendu. Et ils ont été atteints de l'esprit de jalousie. Ils ont désiré ce qui est à Dieu. Et dès ce moment-là, Dieu s'est dit, si je les laisse, ils vont faire un carnage dans mon jardin. Donc je suis obligée de les chasser. S'ils ont pu avoir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne leur faudra pas longtemps pour aller chercher le fruit de l'arbre de la vie. Et là, s'ils ont le fruit de l'arbre de la vie éternelle, ce sera foutu pour tout le temps. Fichu de chez fichu. Donc il les a arrêtés et il les a chassés. Mais l'esprit de jalousie, on l'a attrapé là. C'est une graine, une petite graine de rien du tout, mais qui fait des dégâts énormes. Je vous donne un autre exemple. Hein. Satan va voir Dieu, c'est du temps de Job, ce brave Job qui réussit, qui a tout, etc. Puis Satan vient lui dire, tu sais Dieu, faut pas te leurrer, tu as acheté Job, tu l'as soudoyé, tu l'as payé en le bénissant pour qu'il t'adore. C'est normal qu'il t'adore avec tout le succès que tu lui as donné, que tu lui as prodigué. Mais si tu touches à ce qu'il possède, si, hein, et avec les si de Satan, on ferait des colliers pour toutes les bonnes femmes de la terre. Pardon. Et alors, surprenant, Dieu va accepter que Satan tente Job. Et quand on voit jusqu'où Job va être tenté, ça va loin. Hein. Il va perdre ses fils, il va perdre sa santé, sa femme va le renier, etc., etc. Il va se gratter toute la journée. Mais il dira, je ne renierai pas mon Dieu. Et puis, un dernier petit saut dans l'histoire. À la fin des temps, avec l'Antéchrist, Satan sera en contrôle de presque tout. Certains éléments nous disent dans la parole de Dieu, il aura un contrôle sur le politique dans le monde, sur le monde économique, sur la géographie. Il aura même eu la capacité d'installer son propre trône dans ce qui était le Saint des Saints à Jérusalem. Il recevra le culte de la majorité de l'humanité, ce qu'il a toujours désiré. Et pourtant, malgré tout ce qu'il aura, il ne sera pas heureux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura encore une poignée de chrétiens rébarbatifs qui vont lui résister et qui vont continuer à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et ça, au péril de leur mort. Ça, c'est important. Et il sera obsédé jusqu'au bout de persécuter ces derniers chrétiens. Quand on regarde, Christophe est abonné sur Internet à Fil Rouge, à Chrétiens persécutés et encore autre chose. Toutes les semaines, il a une ou plusieurs situations dans le monde où des gens sont persécutés pour leur foi. À petite échelle. Mais là, ce sera à grande échelle. Aurons-nous la force de résister ? Aurais-je, moi, Colette, la force de résister ? Je le souhaite de tout cœur. Ce qui est lié à l'esprit de jalousie de Satan, c'est bien sûr l'orgueil, c'est le désir d'en avoir plus, c'est le fait d'avoir été rejeté, ça il ne l'a pas digéré, et il va vouloir se venger. Et son arme contre Dieu, c'est de se venger à travers nous. Et à chaque fois qu'il sait nous manipuler en nous faisant faire des choses qui ne sont pas de Dieu et qui déplaisent à Dieu, il est heureux. Si on prenait conscience, je ne suis pas une pro de Satan à en faire un culte et en parler tout le temps, j'en parle rarement, hein, mais là je pris mon courage à deux mains pour le faire. Il faut savoir que Dieu avait conçu Satan et ses démons de manière bien supérieure à nous, les humains, dans leurs compétences. Ils transcèdent encore aujourd'hui certaines lois de la nature dans lesquelles nous sommes pris au piège. Je crois qu'ils ne sont pas pris dans la pesanteur. Je ne pense pas qu'ils aient un problème de pesanteur. Ils se baladent où ils veulent. Ils ont un caractère assez intemporel. Ils ne sont pas mortels, pas comme nous, hein. Ils ont beaucoup plus de puissance que nous. Mais nous sommes supérieurs à Satan et à ses démons, car nous avons différentes choses. Nous avons des dons spirituels et l'onction du Christ par le Saint-Esprit. Nous avons accès à Dieu et l'Esprit Saint demeure en nous. Dieu nous appelle ses enfants. Dieu n'appelle pas Satan mon enfant. Nous avons une relation d'alliance renouvelée avec le Seigneur à travers le sang du Christ. Nous l'avons redit au niveau de la scène. Et notre problématique avec le péché a été restaurée à la croix. Et Satan n'a pas accès à la grâce. Donc il est jaloux de la position que nous avons auprès de Dieu. Il est jaloux de l'adoration que nous offrons à Dieu. Parce que cette adoration, il voudrait l'avoir pour lui. Donc il va toujours tout faire pour nous amener à quitter notre position de fils et de fille de Dieu. Ses outils, ça va être l'orgueil, ça va être le désir d'égaler Dieu, ça va être la jalousie, l'envie. Vérifions dans nos familles, vérifions dans l'église, vérifions dans nos lieux de travail combien la jalousie et l'orgueil, l'envie, la mesquinerie, le fait d'en vouloir un tout petit peu plus que l'autre amène des choses complètement aberrantes. Ça, c'est son œuvre. Soit on lui résiste et on dit non, soit on le laisse faire et il nous manipule. Le monde nous donne régulièrement des sujets de glorifier la création plutôt que le créateur. Ces dernières décennies en particulier nous ont montré la course au pouvoir, la course à l'argent, la course à une indescriptible manipulation des hommes. La dernière crise qu'on a eue avec la crise économique mondiale par quelques-uns qui ont manipulé l'argent sur un ordinateur. Je te prends ça, affolant, on n'aurait jamais réalisé ça il y a 3 siècles, 1 siècle, 50 ans. On fait quelques petites bip-bip sur un ordinateur et on transfère de l'argent et on fait monter les prix, on fait baisser ceci. Et Satan, il peut être derrière ça sans aucun problème parce qu'il est derrière l'esprit d'orgueil et de jalousie. Nous, en tant que chrétiens, c'est important qu'on soit, c'est de notre responsabilité d'être vigilants. D'abord, c'est à Dieu seul que nous devons rendre un culte. À Dieu seul. Et il m'arrive de rendre un culte à Madame Télé. Je suis Madame Télé, une dame télé. Je dois faire attention à ce que ça ne prenne pas trop de place et que ça n'envahisse pas ma vie, la vie de mon couple, etc. L'argent, c'est pareil. J'ai manqué quand j'étais à la communauté, quand on était jeune, on n'avait pas de cadeaux. On ne manquait jamais à manger parce qu'on était sur une ferme, mais je n'avais jamais de cadeaux. Une orange, à ce moment-là, c'était une orange à Noël, puis un petit truc préparé. Et ben, le fait de manquer, je me bats avec. Je dois faire attention. Donc on a dans notre histoire des choses qui font qu'on a plus ou moins grande fragilité avec tel ou tel événement. Des enfants qui n'ont pas été désirés vont avoir un mal fou avec le pouvoir, avec l'argent, avec le désir d'être toujours les premiers parce qu'ils ont été les derniers. Ils étaient inexistants aux yeux de maman et papa, parfois, ou de l'un de l'autre. Donc, il y a des choses qui s'inscrivent comme ça dans nos vies et on n'en a même pas conscience. C'est tout petit, on l'acquiert. Ou bien on entend dire, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Ouais, de toute façon, le père de ton père, il a toujours favorisé oncle Christophe. Et puis le gamin de 5 ans, il dit, c'est quoi ça favoriser? Et pourquoi oncle Christophe et papa pas? Et puis, voilà. Et puis on va réaliser que l'un aura eu plus que l'autre. Puis ça va rester. Et ça va macérer. Et cette jalousie, faites-vous pas d'illusions, elle est présente partout. On la connaît, elle nous connaît. Elle sait nos faiblesses. Pour ça qu'il nous faut vraiment examiner avec sérieux nos motivations pour le service de Dieu. Est-ce qu'on désire être vu? Est-ce qu'on désire être remarqué à la première place? Ou est-ce qu'au contraire, on choisit d'être serviteur et fidèle? Serviteur, humble, fidèle. La question, pour moi, je me la pose de temps en temps, je vous la pose aujourd'hui. Jésus, lors de son retour, me trouvera-t-il là où il m'attend? Est-ce que je serai là où il m'attend dans son service, dans ma vie de couple, dans ma vie? Si je ne suis pas mort avant, hein, mais on n'en sait rien. Mais c'est bon de se poser cette question-là de temps en temps. S'il revient demain, est-ce qu'il me trouve là où il doit me trouver? Puis je n'ai pas pu faire autrement que de m'interroger sur les difficultés de nos églises du sud de la métropole lilloise qui ont été florissantes et puis qui, les unes après les autres, ont périclité, ont disparu. Plusieurs sont passées par des crises graves, certaines ont mis la clé sous la porte. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, est-ce que la jalousie entre des responsables spirituels aurait pu ouvrir des portes à Satan? Si c'est le cas, il est indispensable que la jalousie soit mise en lumière et que certains demandent pardon à d'autres. Je crois que ce qui est important avec cette problématique, c'est soit on se laisse écraser par elle, bien on se dit « Ah ben oui, elle m'a eu encore une fois », et puis bien on se dit « Non, en tant que fils et fille de Dieu », on a un pouvoir. On a un pouvoir de dire « je choisis ». Notre décision, notre volonté de choix est importante. Et on peut choisir de résister à cet esprit de jalousie, à tous ces esprits d'orgueil, à toutes ces manipulations pour être au premier rang, etc. On peut, en tant que chrétien, garder un cœur pur. Et on peut le demander à Dieu parce que naturellement, de nous-mêmes, on n'y arrivera peut-être pas. Naturellement, ça sera compliqué. Mais le Seigneur est plein de grâce. Le Seigneur est capable de nous faire, de nous donner ce que nous ne pouvons pas. Alors, on va prendre un temps de silence, un temps de recueillement. Et si le Seigneur nous montre de la jalousie envers un membre du corps, ici ou ailleurs, ça peut être tout à fait inconscient, hein. Je crois qu'on peut très inconsciemment être jaloux sans s'en rendre compte, mais l'Esprit peut nous éclairer. On peut dire alors, Seigneur, montre-moi et donne-moi la force de faire ce que je dois faire. Si c'est nécessaire, allons trouver tel frère, telle sœur, ici ou ailleurs, et demandons pardon et réparons ce que nous pouvons réparer. Seigneur, je te remets ce que nous venons de partager et demande à ton esprit que son œuvre se fasse dans chacun de nos cœurs, comme dans les cœurs de ceux qui écouteront peut-être cette cassette, ce message. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu veux ce qu'il y a de meilleur pour tes enfants. Et quand tu leur dis quelque chose, tu leur donnes les moyens de le mettre en pratique s'ils le désirent.